Terrorist networks, terror states.
Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 172e émission, Pascal.
Et oui, la 25e de cette saison 10.
Au sommaire de laquelle, eh bien, on parlera de la carte Linux Audio, un point sur 2 ans de recherche, puisque eh bien, presque jour pour jour, c'était il y a 2 ans qu'on avait reçu Pierre Jocelyn André, qui poursuit ses recherches sur un nouveau format audio, une nouvelle carte son. On parlera donc eh bien,
de ce format
JO, puisqu'on avait présenté aussi la carte audio analogique Linux Audio, une carte audio analogique contenant dans sa forme originale 8 pistes de sortie. Principale particularité, pouvoir lire ce format audio JO, un format construit sur une modélisation des sons ou des musiques qui ne donne en fait que 3 octets par demi-onde. Linux Audio, en recevant le format JO, envoie directement une tension sur une chaîne d'ampli OP montée en comparateur, dérivateur et un amplificateur de manière à retrouver l'excellence du son analogique. On parlera aussi d'un synthétiseur vocal qui fonctionne. On parlera des 3 souffles, celui qui ouvre les portes. Enfin, j'ai pas tout compris, ce sera assez pointu, genre recherche fondamentale. Évidemment, on aura la revue de presse de l'April par Luc, Manu et Nico. Ils sont au complet cette semaine. Et puis, on fera un retour aussi sur le Tour de France de Telia. Telia, un outil libre de e-commerce qui était hier au Coworking Montpellier pour cette étape de son Tour de France, ce qui a été l'occasion d'interviewer le lead développeur de Telia ainsi que le gentil animateur du Coworking Montpellier qui ont un nouveau lieu
qui ont
super
changé,
sympa.
Oui, qui ont voilà, changé par rapport à la
19 rue de l'école de droit. Avec une jolie terrasse, on y viendra. Côté musique, Pascal, c'est non pas de la daube, mais du dub.
Du dub brésilien. Évidemment, c'est une Fresh Pulp release. Donc forcément, donc ils font appel à des artistes, à des labels brésiliens. Et on écoutera quelques morceaux de cette Fresh Pulp release numéro 49, si mes souvenirs sont bons.
Et en attendant, eh bien, c'est la revue de presse de l'April.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 23, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Donc 6 articles, c'est ça, petite revue de presse, mais quelques articles très intéressants.
Alors 6 articles majeurs, mais on doit bien avoir 25-26 mineurs, parce que tout simplement, il y a des grosses news. Donc, et justement, la première, on vous en reparlera juste derrière. Donc, l'éducation nationale est la priorité au logiciel libre. On va vous parler aussi de l'avancée du libre dans les administrations, de logiciels libres et propriétaires, partage des savoirs, une sorte de compte-rendu d'un débat particulièrement intéressant. Le code informatique qui serait recommandé comme deuxième langue. Et pour finir, on va vous parler de Genova, un petit gabier.
Développé.com, les logiciels libres ne seront plus prioritaires dans l'éducation nationale, ils seront envisagés mais plus préférés aux solutions propriétaires. Un article de Stéphane Lecalme, qui est beaucoup plus court que ce que le titre pourrait laisser croire.
Un rapide compte-rendu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ces derniers temps, et malheureusement, ça s'est pas passé au mieux pour nous.
Oui, on l'avait évoqué la semaine dernière, puisqu'évidemment on avait les infos, même si c'était pas encore paru dans la presse. Raconte-nous ça, Nicolas.
C'est passé, il y a un article de loi sur l'éducation nationale qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, et donc il y avait une phrase qui mettait la priorité sur les logiciels libres dans les formats ouverts et les documents et les appels d'offres.
Oui, c'était le Sénat qui l'avait passé, hein. Et donc en arrivant à l'Assemblée nationale...
Et en arrivant à l'Assemblée nationale, ils ont supprimé la notion de priorité, et c'est juste envisager, c'est à prendre en compte, mais pas sans plus de priorité.
Bon, je rappelle, hein, dans l'éducation, donc c'était Payon qui était à la manœuvre et on l'a vu, hein, parce qu'on a tous suivi ça de manière très proche au niveau de l'April, on l'a vu, il a exprimé le fait qu'il y avait des doutes légaux sur cette priorité, vous comprenez, le droit, les marchés, la compétition. Et puis il y a eu aux manœuvres derrière tout ça l'AFDEL et le Syntec Numérique qui nous ont pas fait honneur les entreprises françaises, parce qu'ils ont défendu vraiment le fait de pouvoir mettre du propriétaire dans l'école.
Donc un amendement porté par le gouvernement qui est celui qui a saboté tout ça. Donc aujourd'hui, la bataille n'est pas perdue. perdu, ça doit repasser au Sénat. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit dans la presse. Manu, t'as remonté énormément d'articles, ça fait vachement, vachement de buzz.
Et oui, j'en pouvais plus à force de devoir les mettre dans la revue de presse. On en était à une vingtaine, hein, quasiment. C'est la première fois que je vois ça.
Voilà, et il y a également des députés de la majorité qui sont allés voir le ministre en disant qu'est-ce que c'est que cette embrouille, etc., etc. Donc ça fait pas mal de bruit. Nous, du côté de l'April, on a incité nos membres, et vous êtes bien les bienvenus à le faire si ça vous tente, à aller embêter un peu leurs députés en leur demandant des comptes et en leur demandant pourquoi, comment, et est-ce qu'on peut pas revenir en arrière.
Alors, tu dis embêter, moi je dis juste les informer, parce qu'ils étaient pas forcément nombreux pendant les lectures, et puis, simplement, c'est des sujets pointus, c'est une phrase qui sort pas forcément du lot de manière initiale, il faut juste leur apprendre de quoi il s'agit et pourquoi c'est intéressant.
On a des bruits de couloir qui nous laissent penser que c'est pas perdu, donc rendez-vous sur notre site si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, passer un petit coup de fil, envoyer un petit mail à votre député. Clubic.com, Mathieu Gendron, DSI de l'État, on avance sur le libre, un article de Thomas Pontiroli. Alors moi j'ai du mal à ne pas considérer que cet article serait lié à ce qui se passe sur l'éducation, à ce qui s'est passé sur l'accord Open Bar. Donc le gouvernement, avec la circulaire Hérault ayant pris une position pro-libre et dans les faits prenant en fait des décisions qui ne le sont pas, on se dit que peut-être ce DSI a été sommé par sa hiérarchie de montrer que le gouvernement, si, fait des efforts dans le domaine.
Donc Mathieu Gendron, en fait, est DSI à la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication, donc on connaît bien la DISIC, et qui fait un peu le bilan de tout ce qui s'est passé de manière un peu officielle, donc la circulaire Hérault et puis l'éducation. Et donc on lui demande qu'est-ce qui est mis en œuvre dans le gouvernement par rapport au logiciel libre.
Donc en gros, de ce que lui-même exprime, ils ont fait un annuaire, ce qui est très bien, c'est une très bonne approche, hein, on en a pas mal à la prise justement, et là leur annuaire il a l'air de surtout concerner les outils bureautiques et les outils qu'on utilise au jour le jour, et ils seraient en train de travailler en ce moment même sur les logiciels qui sont plus utilisés sur les serveurs, les VMware, Xen et autres Citrix. Donc tout ça c'est des choses qu'on a précis, hein, moi j'aime bien. Donc il a l'air d'être très honnête et il exprime des choses intéressantes, notamment sur les peurs que ont les autres DSI de l'État, parce qu'ils sont plus d'un, hein, il semblerait, et ils ont un petit peu peur notamment du support.
Oui, moi je trouve que l'argument il tient pas vraiment, c'est-à-dire que c'est un argument qu'on entendait il y a quelques années de ça, en disant « Ah dans le libre, c'est la communauté, c'est pas sérieux, c'est juste des gens éparpillés dans la nature ». Bon, hormis le fait que ça marche, on a quand même des entreprises françaises ou étrangères dans le libre qui sont capables de faire du support, et que cette question propriétaire libre par rapport au support, elle a pas de sens.
Oui, et puis surtout que les SS2L, donc les sociétés de services en logiciel libre, leur business model c'est de faire du support, donc je les vois mal se tirer une balle dans le pied en n'en proposant pas, donc il n'y a pas de souci. Si on veut du support, dans le logiciel libre, il n'y a absolument aucun problème pour en trouver, que ce soit la communauté ou les entreprises.
Il parle quand même de l'accord Open Bar et des questions de sécurité.
Oui, donc là, il dit qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter, que le ministère de la Défense sait ce qu'il fait, que les pseudo-failles, ils ont supposé qu'il y en avait partout, donc ils vont remettre des surcouches à tout ça. Bon, les exemples qu'il cite...
Il y a déjà des surcouches
qui existent, mais après, je pense que les surcouches, ça doit être aussi du privateur, donc ça doit pas être le bon choix.
Challenge.fr, face à Windows et macOS, les logiciels libres n'ont pas dit leur dernier mot, à un article de Paul Loubière. Paul Loubière, qui, je tiens à le préciser, est un de mes anciens profs d'université.
Donc c'est un article qui est plutôt intéressant, hein, qui parle du marché, c'est plus économique, ça parle des entreprises, les boîtes comme Liferay notamment, et puis ça dit, effectivement, il y a un marché des plus intéressants, il y a des pépettes à se faire dans le logiciel libre.
Donc eux, ils mettent surtout en avant toute la partie mobile, donc avec les systèmes Android, les tablettes, où effectivement les solutions libres arrivent quand même à quasiment 38% de mobiles, dans les mobiles, donc ils découvrent un peu le business à ce niveau-là, et que c'est vraiment un endroit où ils peuvent aller, que ça commence à se déployer, et que les entreprises, faut qu'elles commencent à regarder ce côté-là, quoi.
Ce qui est assez rigolo, c'est que, à part si l'article ne parlait pas de téléphonie, donc de trucs récents, ça donnerait l'impression que cet article a été écrit à l'époque où moi-même j'étais étudiant de Paul Loubière, pour le coup, parce que c'est un peu dans le genre « Oh, regardez, il existe du logiciel libre, c'est incroyable !» Il y a un peu ce côté découvert, tout ça, donc on suppose que l'article est destiné, c'est la presse économique, voilà, à des gens qui sont pas du tout au fait de ces trucs-là, et l'article est en mode « Si, c'est sérieux, ça marche, tout ça !» C'est un peu la grande découverte avec 5 ans de retard, quoi. Et il y a 5 ans, j'étais plus étudiant depuis longtemps, donc je suis un peu mauvaise langue. Carré d'infos, partager les savoirs, c'est bouleverser l'ordre mondial. Par Pauline Croquet.
Donc un relativement long article que moi j'ai trouvé un peu dispersé.
Moi j'ai trouvé très bien.
Ouais, moi j'ai un peu des deux, moi je vais dire. Effectivement, c'est un peu dispersé parce que ça touche à beaucoup de domaines. Donc il parle de la philosophie du do-it-yourself avec les FAI maison, l'impression 3D, des choses comme ça. Enfin un peu ce qui est l'actualité du libre, on va dire, aujourd'hui. Bah, ça présente, ça fait un peu une rétrospective de tout ce qui se passe dans ces domaines.
Bah, justement, moi c'est ce que je trouve intéressant, c'est que bon, alors déjà l'article a une très bonne qualité rédactionnelle. Je trouve qu'il est bien écrit, ça se lit très, très facilement. Donc ça, c'est agréable. Et justement, bah, il lit tous ces éléments, puisque ça fait partie du paysage. On a du logiciel libre, on a effectivement du do-it-yourself, de l'open hardware, de l'open data, de l'impression 3D. Et il montre, il trace un fil directeur entre tout ça pour montrer quelle est la cohérence. Et c'est un article toulousain. Donc à chaque fois, il va citer des acteurs locaux, donc qui montrent qu'à Toulouse, il y a des gens qui prennent tous ces trucs en main. Et ça, c'est génial.
J'ai adoré, alors ça doit être Laurent Gerby, le gars de tetaneutral.net, qui est un fournisseur d'accès, si je comprends bien. Et j'ai adoré ses explications sur les blocages des FAI, donc des fournisseurs d'accès, sur leur réseau. Notamment, bah, y a un petit blocage de free qui bloque YouTube. Ils n'ont pas l'air d'aimer parce qu'ils disent que ça coûte trop cher.
Alors, ils bloquent pas, ils ralentissent. Hein. Les abonnés free savent qu'aller sur YouTube, c'est toujours compliqué. Et free dit ça nous coûte trop cher d'aller là-bas, ils investissent pas dans le réseau, etc. Et là, donc, ce fournisseur d'accès, qui est un fournisseur d'accès associatif, dit ça ne coûte pas plus cher d'aller sur YouTube qu'ailleurs. C'est surtout pour vous donner l'envie de payer vos vidéos et d'aller payer pour avoir des...
Et ouais, et donc ça, tout ce truc-là, j'avoue, ça ouvre un peu les yeux, parce que t'as beau dire, mais moi, quand je vais sur YouTube pour aller regarder un truc, je suis bloqué, parce qu'à un moment donné, j'arrive pas à la voir, ma putain de vidéo. Et donc, effectivement, aller louer un film, ça me coûte un peu plus cher, mais ça marche bien. Ça ouvre les yeux sur ce modèle-là, et ça fait un peu mal au cœur, par ailleurs, quand on comprend pourquoi on est pris.
Ouais, mon fournisseur d'accès, personnellement, ne me ralentit pas quand je vais sur YouTube, et je ne comprends pas qu'on reste chez un fournisseur qui te bloque.
Parce que c'est aussi ça, l'avantage, enfin, du libre, on peut faire un peu ce qu'on veut, là, par exemple, bah, Tetaneutral a monté son propre fournisseur d'accès. Après, on peut être chez des gros qui respectent plus la neutralité du web ou du internet. Donc, mais si vraiment on a envie de faire bouger les choses, on peut le faire. On a tout le matériel à disposition et on peut vraiment s'impliquer dans ce monde-là.
Donc, si ça vous tente, hein, ces questions de fournisseur d'accès internet associatif, vous pouvez aller voir FFDN, donc, qui est une association. Donc, FDN, c'est le premier fournisseur d'accès associatif et qui a créé une fédération. Son objectif, c'était pas de devenir une espèce de gros monstre, pour qu'il y ait plein d'associations qui prennent exemple sur elle et qui fassent comme ça des fournisseurs d'accès associatifs. Et c'est un peu plus cher que quand on va auprès d'un gros fournisseur, mais bah, on gagne en liberté, on connaît les gens qui administrent, on sait qu'on n'est pas censuré, etc. On peut vérifier tout ça, et bah, si le truc vous intéresse, allez voir FFDN, cherchez ça dans un moteur de recherche, et vous trouverez des infos. Atlantico, faut-il laisser tomber l'allemand, le chinois ou l'espagnol et faire code informatique seconde langue? Donc c'est une interview menée par Benjamin Veil, de deux personnes qu'on apprécie et qu'on connaît très bien, puisqu'il y a Jean-Pierre Archambault, qui est quelqu'un qui est retraité maintenant, mais qui a travaillé dans l'éducation et qui est un libriste convaincu et qui connaît très bien son sujet, et Rémi Boulle, qui est vice-président de l'April et qui est dans l'éducation nationale, donc il connaît également très bien son sujet. Donc une belle interview sur 3 pages.
Donc il aborde sous l'aspect, en fait, est-ce qu'on devrait enseigner aux étudiants, aux élèves, bah, l'informatique vraiment pure et dure, c'est-à-dire vraiment du langage, coder, apprendre à coder, apprendre à faire des programmes, et plus simplement à utiliser l'informatique comme un outil. Parce que donc ils essayent de creuser cette idée-là et bien, ils arrivent à montrer que bah, c'est par la compréhension de l'informatique aujourd'hui qu'on arrive à développer des choses, que beaucoup de choses tournent autour de ces concepts-là, et donc si on fait que servir d'un ordinateur juste comme un ordinateur, et ben on passe à côté de beaucoup de choses, et qu'au final c'est pas beaucoup plus utile qu'un stylo.
Donc moi je pense que c'est un article qui vaut la peine d'aller te consulter. Donc il aborde effectivement quel genre de langage on peut avoir à apprendre, qui sont pertinents, comprendre ce que c'est que le réseau. Upstream University aussi, il y a une petite mention, c'est un truc qui est mené par Loïc Dachary qu'on aime bien à l'April, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un des gourous français, je dirais, du libre. Et donc vraiment comment se prendre par la main pour comprendre ce qui nous entoure, le code, et sortir de ce que fait l'éducation nationale aujourd'hui, qui est un peu mauvais.
Moi je retiens deux idées fortes de ce truc là que je trouve vraiment très très bonne. La première, c'est que l'informatique étant présente partout et permettant de traiter de l'information, savoir coder, comprendre comment ça marche, c'est avoir du pouvoir sur sa vie, et ce sera de plus en plus vrai, et donc c'est effectivement une nécessité que d'avoir ces compétences-là, même si on n'est pas informaticien. Savoir comment ça marche, c'est vital. Second point que je trouve très intéressant d'un point de vue pédagogique, et souvent quand on entend parler d'éducation nationale, on parle d'heures de cours, de machin, etc. Là, Jean-Pierre Archambault nous parle de d'enseignement vraiment, et il dit, bah voilà, quand on met un élève devant un truc à apprendre par cœur ou des exos de maths à faire, il en fait 9 sur 10, il est content. Quand on le met face à un programme à réaliser, il construit quelque chose, et donc pédagogiquement, il a ce plaisir de faire quelque chose, et il va jusqu'au bout, et il reste le temps qu'il faut. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend jamais dans les questions d'éducation, et ça, je trouve ça vraiment bien.
Il y a un autre passage qui m'a assez intéressé. Dans l'article, il parle vraiment du retard que prend la France dans ce domaine-là, avec l'exemple qu'en France, on aime bien donner des tablettes Apple, donc ultra privateur, où on peut absolument rien faire sinon l'utiliser, alors qu'en Grande-Bretagne, ils vont donner des plateformes Arduino et des Raspberry Pi, qui sont en fait des petites plateformes complètement libres, où on peut faire ce qu'on veut dessus, on a vraiment la main sur le système, donc ça montre bien le décalage qu'on prend du retard là-dessus, quoi.
Agoravox, Genova, un militant des logiciels libres et open source, un article de Sédou Badian. Donc c'est un portrait d'un libriste qui a la particularité d'habiter Dakar, manifestement.
Et oui, donc on voit sa photo en première page, enfin directement sur l'article. Donc c'est intéressant parce que justement c'est un monde francophone qui fait du libre, mais qui fait pas tout à fait de la même manière que chez nous parce que on n'a pas les mêmes approches et ils n'ont pas aussi les moyens de se lancer là-dedans. Donc on voit un petit peu comment il a démarré, on voit qu'est-ce qu'il en fait aujourd'hui, ce qu'il veut en faire, et on voit aussi le monde associatif de son point de vue, qui n'est pas tout à fait la même chose que chez nous, quoi.
Ouais, ça change un peu, c'est vrai qu'ils n'ont pas, les mêmes moyens, mais ils ont commencé comme nous, hein, comme l'exemple qu'il donne de faire un Monkey en visuel basique, bah oui, c'était tout le monde a commencé comme ça, même en France, et voilà, donc ils montrent bien qu'ils arrivent aussi à faire des applications avec Twitter, donc ils sont quand même bien au courant de tout ça, et bien ils arrivent à se développer, et que c'est une belle rétrospective, un bon exemple de ce qu'on peut faire dans ces pays-là.
De ce qu'on peut faire en étant dans le pays, c'est-à-dire ça montre que le logiciel libre, c'est quelque chose qu'on s'approprie et que tout le monde peut mettre les mains dedans. Il lui explique qu'il a récupéré un vieil ordinateur IBM et qu'il a appris sur le tas avec un manuel. Bon, il avait l'esprit à ça, c'est un authentique geek, hein. Il a un pseudo assez rigolo qui est Dovby, ce qui en Wolof veut dire le fou. Donc en gros, quand il s'est mis à faire ça, je pense que c'est l'histoire commune à beaucoup de geeks, quel que soit l'endroit où ils sont nés, tout le monde les a pris pour des dingues. Et voilà, et puis il parle des liens qu'il a avec d'autres associations, d'autres lugs qu'il peut y avoir en Afrique, que ce soit Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord. Et ben voilà, ça fait plaisir de voir que tous ces gens travaillent ensemble. Et ben voilà, c'était le tour de la revue de presse de la semaine 23. Merci à vous deux et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ouais. Salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et on les remercie bien, nos trois apriliens, pour cette revue de presse de la semaine 23. On fait un tour à présent chez Fresh Pulp Records, Fer de Lance.
Ça faisait longtemps. Hein.
Ça faisait longtemps.
Oui, quand même.
Pas si longtemps.
Oh, si, quand même.
En tout cas, il lance une nouvelle famille de compiles avec pour but de rendre hommage à la scène dub d'un pays en particulier. Et là, c'est pour cette première de Pulp Up, c'est le Brésil.
Ah, le Brésil.
Depuis longtemps, que ce soit musicalement ou graphiquement, il travaille avec des artistes brésiliens comme Doubleizer, Andrea Dacal, qu'on avait vu d'ailleurs en 2010, ouais, merci.
À Bordeaux.
Dom Lampa et plus récemment avec les artistes du label Nudrags, que l'on retrouve évidemment sur cette compilation, une compile donc orientée dub et même roots dub, avec les incontournables comme Dub Movement, avec lesquels on va démarrer cette petite playlist. Le titre s'appelle Circense Melodica, c'est disponible chez SoundCloud, c'est Dub Movement, et l'album est sorti le 13 mai, donc c'est plutôt récent.
Et c'est en licence Creative Commons by NCSA.
SA. Dub Movement avec ce Sirkens Sirens, Sirkens et Melodica. Cet extrait donc de cette compilation intitulée Pulp Up Brazil chez le célèbre label Fresh Pulp Records.
Et c'est la compil numéro d'ailleurs 69.
Eh bien dis donc, ils chôment pas les petits gars, moi je vous le dis, ils chôment pas. À présent, eh bien, on reçoit quelqu'un qu'on avait reçu il y a presque jour pour jour 2 ans. Pierre-Jocelyn André, bonjour.
Bonjour.
Alors, on t'avait reçu il y a 2 ans pour parler du format audio Abadi Joe, de la carte son Linux Audio, etc. Peut-être pour que nos auditeurs comprennent, parce que là, on rentre dans des domaines qui touchent à la recherche fondamentale, oserais-je dire. Traditionnellement, on représente un son par une forme d'onde, un truc comme ça qui monte et qui descend autour du zéro, comme ça.
Qui oscille, voilà.
Et c'est déjà au départ, c'est ce concept qui est battu en brèche par ces travaux que tu mènes depuis, j'imagine, pas mal d'années.
Ben maintenant, ça va faire un peu plus de 3 ans, puisque j'avais commencé ça, c'était dans un mois de décembre, donc presque 3 ans et demi même. Mm-hmm. Donc la démarche au départ, c'était de pouvoir avoir un système audio qui soit léger. Donc j'ai commencé à coder pour dans cet objectif. Assez rapidement, j'ai eu quelques résultats qui étaient encourageants, mais il y avait quand même pas mal d'effets spéciaux qui se produisaient. Donc juste après notre émission qu'on a pu avoir ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a basculé sur du hard, parce qu'on s'est aperçu que les technologies actuelles ne correspondaient pas au fonctionnement du son. Donc on a travaillé sur la carte audio Linux. Et dernièrement, on a rebasculé sur le soft. La carte audio Linux est quasiment prête à être produite. On a créé plusieurs prototypes, on a fait 3 grandes versions majeures. Et là, on a rebasculé sur du soft pour essayer d'avoir des applications, car entre-temps, il est sorti des technologies comme le Raspberry Pi, le RPI, qui sont vraiment bas coût et qui pourraient faire... nous permettent de produire, de créer des choses.
Mmh. Alors, pour revenir à cette notion théorique, en fait, l'idée du format JO, c'est de modéliser le son plutôt que de le stocker, en quelque sorte.
C'est exact. L'idée principale, c'est faire de la modélisation. Alors, ce qu'on a fait, bon, je ne suis pas tout seul aussi, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a essayé de déterminer quelles étaient les lois de fonctionnement des sons. Donc ça a mis beaucoup de temps parce que à l'arrivée, les conclusions, les résultats sont vraiment très surprenants, très surprenants. Là, actuellement, dans l'état des choses, ce qu'on peut dire, c'est que je ne dis pas que d'autres personnes arrivent à le représenter d'une autre manière, hein, mais je dis que nous, notre manière de le représenter, c'est qu'au départ, c'est un souffle et après, c'est une mise en forme de ce souffle qui va permettre de créer le son.
C'est-à-dire le souffle, ce serait la pression acoustique, ce qu'on appelle souvent la pression acoustique, c'est-à-dire ce qui se mesure en décibels,
oui,
etc.
Oui, c'est exactement ça. On serait en fait dans un souffle constant, la pression ambiante, et sur cette pression ambiante, nous pouvons donner 3 types de souffles. Un souffle très fort qui correspondrait à un souffle de batterie ou un claque sur la corde d'une guitare, le coup de marteau, quoi, le claque classique, qui donnerait la puissance, qui créerait la force permettant de créer le son. Et après, derrière, selon les mécaniques physiques qui vont intervenir, ça va reproduire exactement une force identique. Il faut que la forme soit identique pour augmenter la force et c'est ça qui va créer le son. Après, il y a de nombreuses lois qui vont intervenir, qui vont faire que la force, pour pouvoir y exister, il faut qu'elle ait un minimum, il faut qu'il n'y ait pas une force plus forte devant. On va pouvoir aussi mixer des sons. Disons qu'il y a plusieurs lois physiques qui vont intervenir, parce que c'est pas tout à fait des notions de fréquence. Notre conclusion, c'est qu'au départ, c'est le souffle initial, et la manière dont on travaille ce souffle initial qui va créer le son. Nous avons identifié 3 types de souffle initial. Le premier souffle initial, c'est nous qui donnons l'énergie, nous donnons un grand claque. C'est l'exemple avec la guitare. le marteau sur la corde du piano. C'est vraiment c'est une imitation carrément du coup de tambour. Mmh. Ou le tonnerre aussi reprend ça, mais d'une manière aléatoire, on va dire. Enfin, pas cohérente le tonnerre, mais c'est exactement ça. Mmh. Il suffit de prendre quelques-uns de ces... Trois francs suffisent, puisqu'on ne parle pas en onde. Hein. La notion d'onde ne correspond pas à ce que nous pouvons observer. D'ailleurs, je pourrais revenir plus tard avec sur les détails sur la guitare et le son B. Nous travaillons sur des fronts. Les fronts montants se marient avec les fronts montants, les fronts descendants se marient avec les fronts descendants. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que le premier souffle, ça va être un souffle brutal, nous venant dans le milieu ambiant en donnant de l'énergie, beaucoup d'énergie, de manière à ce que le son puisse exister. Il y a une autre technique qui va être d'utiliser un catalyseur. Nous n'avons pas assez de puissance pour créer une force suffisante pour que le son existe dans ce front. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons donner un front de mi-hauteur, admettons, Donc, utiliser ce catalyseur pour commencer la réaction et derrière revenir avec la forme désirée en redonnant plusieurs fois de la puissance. Et en fin de compte, c'est à chaque fois qu'on aura un front de forme identique, il va venir s'associer au premier front pour créer une puissance suffisante, une force suffisante, je devrais dire plutôt, une force suffisante pour que le son puisse exister. Et après, il existe encore une troisième force, et celle-là elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus difficile à obtenir. C'est tout simplement une force, on se contente de donner la mise en forme. Mais si on prépare bien le terrain et qu'on met les portes avant, en donnant les mises en forme, on va pouvoir récupérer l'énergie se trouvant dans la pression déjà ambiante, et c'est la pression ambiante qui va se libérer et qui va donner la force au son que l'on a créé. Cette force est assez difficile à manipuler. D'ailleurs, c'est de cette force-là qui fait apparaître les effets Larsen, feedback, tout ça. C'est la pression ambiante qui donne son énergie. Donc, quand on manipule cette force, quand on ouvre cette porte de la pression ambiante donnant l'énergie au son, il faut la fermer. Voilà. Donc, on travaille sur ces trois types de forces.
Alors, pour ceux à qui ça peut paraître un petit peu ésotérique, il y a quand même un exemple qui est super frappant par rapport justement à ce format audio. C'est la petite vidéo qu'on peut voir sur le site où un fichier WAVE, un fichier non compressé de 37 mégas, finit par être joué avec la même qualité, sans compression type MP3, Gvorbis, etc. Donc, des compressions avec perte, peut être joué avec la même qualité en pesant 10 fois moins lourd, soit 3 mégas et quelques. Alors qu'on a l'impression que ce fichier audio, ça n'est qu'un fichier texte qui est interprété par la machine. Est-ce que je me trompe ?
C'est interprété, je ne sais pas si c'est le...
Non, ou modélisé. Donc.
Voilà, c'est ça.
En fin c'est de le modèle qui est donné, en fait.
Voilà, on dit à la machine, selon la on connaît, en tenant compte des lois des sons, on lui dit, donc, tu crées ta force... Et derrière, tu la mets en forme de telle manière ou de telle manière. Et ainsi, on retrouve tous les sons. En fin de compte, ce que je pense qu'on pourrait résumer ça, c'est que nous pouvons voir une information de deux manières. Soit on se met au bord d'un lac, on lance un caillou, et tous les millièmes de seconde, on regarde ce qui se passe et on écrit s'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça.
C'est ce que fait l'audio habituellement.
Or, nous, ce qu'on fait, ce n'est pas du tout ça. On dit, voilà, il y a un caillou de telle force qui tombe à tel endroit. Donc, c'est sûr que donner une seule information, ça pèse qu'un octet. Et noter sur le bord du rivage toutes les informations qui arrivent, ça va peser très, très lourd.
Voilà, 44 100 fois par seconde pour le son, ce qui est le taux d'échantillonnage habituel en audio.
Sachant que si on veut avoir un format de notre qualité, ce n'est pas que 44 100, il faut le multiplier, parce qu'on travaille sur plusieurs octets, chaque information est sur plusieurs octets. Mmh. Alors qu'avec la modélisation, chaque information est sur un seul octet.
Et puis d'où ce découpage avec l'audio numérique traditionnel où il nous faut 44 100 photos par seconde pour voir le mouvement, si je compare avec l'image, là du coup il n'y a plus cette notion d'échantillonnage finalement.
Non,
ça redevient linéaire, d'où ce que tu disais il y a deux ans, de manière à retrouver l'excellence du son analogique.
Voilà, c'est exact. La démarche, là, c'était d'avoir de la qualité, d'essayer de reproduire le réel. Et pour reproduire le réel, il faut modéliser, il ne faut pas imiter. Donc, il faut concevoir, et la démarche était là.
Alors, autre débouché, en quelque sorte, de ces travaux de recherche, c'est la synthèse vocale.
Alors, voilà, là actuellement, pour et par le biais de mon pen libre, la démarche est de lancer une application sur des petits ordinateurs modernes qui valent quelques dizaines d'euros, vraiment
comme
pas
les
cher.
Raspberry Pi dont tu parlais
voilà,
tout à l'heure.
C'est exactement, je pensais justement à celui-là. Ajouter juste des petits haut-parleurs pas chers, ça vaut 5 ou 10 euros, un clavier. Mettre une application avec mon format audio. J'ai créé un synthétiseur vocal qui pèse 30 kilo-octets. 30 kilo-octets, tout réuni avec de nombreuses applications. On peut largement le réduire. 30 kilo-octets en mettant les sources à l'intérieur. Donc ça pèse beaucoup plus léger. Ce qui veut dire qu'actuellement, on peut créer des synthétiseurs vocaux qui pèsent moins de 30 kilo-octets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des appareils qui vont pouvoir lire des textes, qui vont pouvoir faire parler des gens qui ont perdu la voix suite à une maladie ou qui sont dans des hôpitaux qui ne peuvent pas s'exprimer, avec des appareils qui consomment très peu d'énergie, qui vont être ultra rapides, puisque l'application elle-même, je crois que c'est en kilo-octets qui tourne, donc c'est quelque chose qui va être quasiment instantané, ultra rapide, sans consommation d'énergie, et qui va permettre aux jeunes de s'exprimer. La démarche avec l'association, c'est de lancer un mouvement pour que l'association produise des Raspberry Pi avec le synthétiseur vocal dessus et de pouvoir les mettre à disposition dans les hôpitaux.
Alors ça, c'est, j'imagine que... Alors peut-être qu'il y a 3 ans, les... Oui ?
On a peut-être une illustration.
On a peut-être une illustration audio pour écouter. Alors peut-être la commenter avant de l'écouter.
Alors cette illustration... Je vais revenir en une minute sur le son B. Puisqu'on parlait du synthétiseur vocal, si nous regardons le son B, c'est tout simplement un M majuscule sous une forme de lettre anglaise. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fronts sont séparés. Donc ce qu'il faut faire, c'est sur le premier front montant, il faut donner toujours la même forme. Sur le second front, le front descendant, il faut faire attention qu'il ne redescende pas de la même manière, de manière à ne pas créer de force. En agissant comme ça, on va obtenir le son B. Le son B, d'une manière qui récupère l'énergie de la pression ambiante. Maintenant, si à ce son B, on rajoute un simple petit pont qui prend la moitié de la puissance acoustique possible, on va pouvoir réduire grandement les formes de M derrière. On obtiendra encore le son B. Mais le son B, on peut encore l'obtenir en partant directement d'une grande force seule, reproduisant le son M avec le bas du M qui descend en bas pour revenir. Mais là, c'est une force qui va demander beaucoup plus de puissance. Mais en écriture, si on fait attention, on peut écrire ce son B seulement avec 4 octets. Pour le fichier audio qui vient maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu illustrer comment on travaillait sur les fronts. Alors, quelque chose qui se fait couramment dans toutes les musiques que l'on rencontre, c'est que les gens se font une base, une base rythmique. Et après, tout au long de la chanson, c'est une base qui revient. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le son B, mais au lieu que le front descendant, je le fais varier, je l'ai laissé toujours descendre de la même façon. Quand on fait ça, on recrée le son d'une guitare. Donc, c'est comme ça que j'ai créé un son de guitare. Ce que j'ai fait, c'est que sur ces fronts, j'ai mis 5 fois un front puissant. Derrière, j'ai mis les mises en forme en mettant des différentes durées. Ce qui fait que j'ai 5 notes de guitare qui se suivent. Ces 5 notes de guitare, d'ailleurs, à la fin du fichier, on va pouvoir les entendre. On devrait pouvoir les entendre, si j'ai donné le bon fichier. En répétant ces 5 notes de guitare, ça fait une base de rythme, un peu rhythm and blues. Et ça, si on regarde le poids du fichier qui permet de créer ça, on parle en dizaines d'octets. C'est peut-être 10 ou 15 octets. Et on peut produire des sons sans limite en giga-octets de la technologie actuelle.
Eh bien, on va écouter cet exemple. Oui.
Ah, je trouve que... Et ce que j'ai fait, j'ai fait varier les premières notes. J'ai fait varier simplement une suite de fronts d'une valeur de durée de 170. Et j'ai fait varier 150, 130. C'est comme ça que vous allez entendre la différence.
Eh oui, effectivement, ça fait la rythmique tadam 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 tadam
à la fin du fichier.
Tout à fait.
Et très très léger à écrire donc.
Alors une question avant qu'on se quitte, car le tourne. J'imagine qu'il y a 3 ans de ça, quand tu parlais de ton domaine de travail à des collègues ou à des gens qui sont dans l'audio, etc. Les gens devaient te regarder un petit peu bizarre quand même en disant mais comment il veut faire du son avec aussi peu de données, etc. Puisque on est en pleine époque où les gens il faut réduire la taille des fichiers, etc. Est-ce que le regard de tes pairs ou des gens autour de toi était un petit peu suspicieux au départ?
Certainement. Disons que ce qui me gêne le plus...
Parce que c'est assez révolutionnaire, c'est ça que je veux dire par là.
J'ai entendu... Non, ce qui me gêne le plus, c'est pourquoi tu te donnes de la peine, puisqu'il y a des grands groupes qui arrive à faire des synthétiseurs vocaux, qui arrive à sortir la musique. Les machines sont de plus en plus puissantes. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne rajouter sa technique tout seul dans un coin comme un savant fou. Et ça, c'est les gens les plus courtois qui me parlent comme ça.
D'accord.
Mais déjà, le terme est lancé, fou. Mais et moi, je trouve ça choquant. Parce que, quelque part... c'est pas une raison, parce que je peux imiter quelque chose que je ne dois pas chercher à la modéliser. Parce que la modélisation va nous donner le pouvoir de créer, le pouvoir de gérer son énergie, le pouvoir d'évoluer. Tandis que donner de gros moyens sans se soucier si la personne a les moyens de se procurer ces gros moyens, entre guillemets, c'est être égoïste, ne pas faire attention aux autres. Et là, du tout, n'est pas ma démarche. Ma démarche, c'est d'être curieux et d'aller voir comment c'est.
Oui, puis dans la science ou dans l'ingénierie, en général, quand on trouve une bonne idée, en général, elle est simple, elle est puissante, elle est efficace. Et là, ce que tu produis toi comme travail, ça va dans ce sens-là. Alors qu'à l'inverse, on a des choses très compliquées. Hein, compliqué, c'est toujours négatif par rapport à complexe. Très lourdes, très chères, qui consomment beaucoup d'énergie. Et en ce moment, que ce soit au niveau des data centers, au niveau de l'énergie, etc., on est tous à la recherche de solutions qui soient plus propre, plus simple, plus pur, plus efficace, plus logique, moins dispendieuse, plus partageable, etc. Donc j'imagine que là, il doit y avoir quand même des gens qui commencent à s'intéresser de plus près à ton travail aujourd'hui, non ? Maintenant que les prototypes ont été faits, etc., non ?
Non, je ne crois pas. Je crois que le libre est un système ouvert. Donc, dans un système ouvert, c'est un système qui est curieux, qui va chercher des solutions, qui va évoluer, qui va créer des richesses. Si on fait attention, les autres personnes qu'on rencontre sont des personnes qui sont assujetties à un ordre établi, dans lequel ils ont trouvé leur niche, leur créneau, comme ils disent. Et il ne faut pas que ça change. Il ne faut pas que ça change parce que est-ce qu'on va pouvoir vendre de la musique aussi cher si ça nous coûte beaucoup moins cher à produire? Il faut un argument que la musique soit mystique, qu'on ne puisse pas créer, que ce soit réservé à certaines personnes et à utiliser certains moyens. Donc, c'est élitiste. Parce que vous possédez ça, vous êtes supérieur. Si tout le monde possède ça, on ne pourra plus leur vendre très cher en disant « vous êtes supérieur parce que vous avez ça ».
Sauf qu'on sait bien que ce genre de modèle ne résiste pas au long terme. Hein. On le voit bien, il y a 30 ans, pour enregistrer un album, il fallait avoir des appareils à 200 000 euros, des consoles hors de prix, il y avait beaucoup de gros studios, etc. Grâce à l'informatique personnelle aujourd'hui, tout le monde peut enregistrer son album à la maison avec des logiciels libres et un ordinateur à 500 euros. Donc, quoi qu'il en soit, la marge du temps fait que forcément, au bout d'un moment, le format Badigeau va casser la baraque.
Le terme, c'est le libre.
le libre va casser la baraque. On est obligé d'enchaîner. Pierre, merci beaucoup. On se tiendra au courant. J'encourage les gens à aller voir sur letime.net/légère. On retrouve un petit peu toutes les informations. Je préviens que sur la petite vidéo de présentation, le son, une fois qu'il est lu, il est super fort. Alors, je conseille aux gens de baisser d'écouter très. Moi, j'ai fait un bond de 2 mètres cette nuit quand j'ai écouté.
Tu seras présent aux rencontres à Bruxelles, peut-être ?
Pardon ?
Tu seras présent à Bruxelles en juillet, là,
au RMLL ?
Ben, au début, j'ai prévu d'y être et je m'étais inscrit, mais n'ayant pas de réponse, je ne sais pas encore.
Ah, il faut.
Ils sont un peu à la bourre.
Ils sont dedans.
C'est rock'n'roll.
S'ils t'ont pas dit que c'était refusé, c'est que tu as des chances peut-être d'y être.
Ok, merci.
Voilà, on va à présent faire une courte pause musicale avant de retrouver Jean-François Vial et puis Manuel Reynaud. Une courte pause musicale toujours avec un extrait de cette compilation Pulp Up Brazil. Et ce sera un tout petit extrait car nous avons du pain sur la planche et des sons à vous diffuser. On va commencer par Jean-François Vial du Coworking Montpellier. Depuis le 29 avril, ils ont déménagé et vous accueillent 19 rue de l'École de Droit. C'est là qu'a fait étape Montpellier-Rennes, le Tour de France de Telia. On va y revenir juste après. Et je ne pouvais pas ne pas faire causer Jean-François Vial sur ce nouveau lieu qu'ils appelaient de leur souhait quand nous les avions reçus le 31 janvier. De la place, de la lumière, des plafonds de stuc et de peinture de scènes de chasse et une chouette petite terrasse. Nous sommes avec Jean-François Vial du Coworking Montpellier. Alors, rebonjour, on s'était vu le 31 janvier.
Bonjour, oui, on s'est vu et c'était très bien.
Alors, à l'époque, le Coworking était quartier de la Gare, rue de la République. Et depuis, vous avez déménagé 19 rue de l'École de Droit dans un local que vous avez trouvé facilement.
Alors, on n'a pas trouvé facilement, on a un petit peu galéré pour trouver. Et en fait, dans notre réseau, nous avions KeepCore, qui sont des amis de longue date du début du projet et qui avaient un espace immense pour eux tout seuls, qui ont beaucoup d'employés aujourd'hui en régie et qui avaient trop de place pour eux. Donc c'est soit ils déménageaient, soit ils prenaient un colocataire. On a pris les colocations et c'est très bien.
Oui, c'est très bien, je confirme. Il y a pas mal d'espace pour se réunir, pour travailler et puis il y a même une magnifique petite terrasse très ensoleillée aujourd'hui. Idéal pour pouvoir se détendre aussi quand on a bien travaillé.
Idéal pour travailler aussi, hein, travailler dehors, au grand air, avec le petit parasol qui fait du bien. C'est très sympa. Nous avons deux pièces communes, vraiment un visage humain, quoi. Les gens ne sont pas les uns sur les autres. Il y a suffisamment de place pour tout le monde, mais suffisamment petit pour rapprocher les gens et susciter et permettre le dialogue et la communication entre les personnes.
Puis une salle de réunion. Alors, est-ce que ce nouveau local a déjà drainé de nouveaux adhérents, en quelque sorte ?
Alors oui, on a de plus en plus de gens qui viennent. Tout à l'heure, il n'y a pas 5 minutes, une demoiselle qui venait pour du télétravail. Juste avant, une personne qui venait, qui était intéressée pour caser chez nous ses développeurs et ses graphistes qui travaillent tous en télétravail aussi. Donc oui, on a de plus en plus de gens. Alors c'est mou quand même, hein. On a des gros besoins parce que ce local, mine de rien, il coûte relativement cher et que 100% de nos revenus, des revenus et de l'argent qu'on fait payer aux coworkers est drainé complètement par le loyer. Donc on a peu de marge de manœuvre et cet été ça va être très dur. Mais oui, ça ramène du monde et petit à petit, là, ça se prend et c'est vraiment top parce que les gens viennent de différents horizons et échangent énormément. C'est très enrichissant, vraiment.
Bah, souhaitons qu'il y en ait de plus en plus. Combien il faudrait de gens en plus pour dépasser la masse critique du loyer?
Alors c'est compliqué à calculer. Ce qu'il nous faut, nous, vraiment, pour être sûr et certain que la structure va perdurer, c'est du full-time. Il y a des gens qui payent au moins et qui viennent très régulièrement. On a eu une petite perte de full-time parce que la conjoncture fait que les gens ont moins d'argent, les moins de clients. Cet été, ça a baissé encore parce que les gens vont partir en vacances, donc ils ne vont pas payer. Par contre, on a beaucoup plus de gens qui viennent de temps en temps, 10 jours par mois, quelques jours par semaine. Ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment du full-time, quoi. Donc des personnes qui sont là régulièrement, qui payent tous les mois. Donc c'est pas forcément facile à trouver, mais ça se trouve petit à petit. Et je me dis aussi que de l'un dans l'autre, peut-être qu'on aura moins de full-time, mais plus de gens de passage, et donc plus de vie, quelque part, dans l'espace, et plus de compétences différentes dans l'espace. Donc c'est difficile à dire. Il nous faudrait à peu près une quinzaine de full-time pour vraiment être pérenne et pouvoir envisager de faire quelques travaux, etc.
On rappelle, pour quelqu'un qui cherche justement un lieu où travailler à temps plein, par mois, c'est combien le tarif?
Alors à temps plein, c'est 180 euros avec full access, il y a accès absolument à tout, sans aucune restriction, les salles de réunion à discrétion, les salles de téléphone à discrétion, l'impression, le café, la reliure, le net, tout compris. Sinon, le tarif le plus bas, c'est 1 euro. Si vous venez passer une demi-journée ou moins, vous payez 1 euro ou plus si vous avez envie, on met dans le cochon directement. Et voilà. Donc les tarifs sont vraiment relativement bas pour permettre plus de gens possible de pouvoir accéder à ce lieu et en profiter pleinement.
Oui, parce qu'à 180 euros, je ne pense pas qu'on puisse trouver un bureau à Montpellier tout équipé.
Non, un bureau à Montpellier, c'est minimum 250 et encore, c'est de la prestation très cheap et très petit bureau. Et on est tout seul dans son petit bureau, donc c'est pas terrible. En moyenne, c'est 600 euros. Un bureau sur Montpellier pour 30 mètres carrés. Donc là, vous avez quasiment 150 mètres carrés. En usage partagé, certes, mais 150 mètres carrés avec une grande salle de réunion, une salle de téléphone, du net, tout est compris. Donc je pense que c'est pas très cher.
En tout cas, on souhaite que vous fassiez le plein. Et puis voilà, c'est 19 rue École de droit, coworkingmontpellier.org. Merci, à bientôt.
À bientôt.
Et c'était au Coworking Montpellier que Telia Solutions e-commerce libre faisait étape lors de son tour de France. Manuel Reynaud, lead développeur chez Telia, nous présente cette solution libre d'e-commerce, les enjeux de ce tour de France, l'historique de la solution, sa position sur le marché, la prochaine version 2.0, ses spécificités techniques, sans pour autant rentrer dans le code comme cela a été fait ce mercredi de bon matin. Bien, nous sommes en compagnie de Manuel Reynaud et puis il y a aussi Étienne Roudex qui est pas loin. Vous êtes à Montpellier aujourd'hui pour faire un tour de France, dans le cadre d'un tour de France de Telia qui est un logiciel libre qui est une solution de e-commerce. Alors peut-être présenter en deux mots. Alors toi, tu disais que Telia est né parce qu'il n'existait rien d'équivalent avant. Un bref historique de la naissance de cet outil.
Alors Telia est né en 2005 et en fait en 2005 il existait une seule solution e-commerce qui était OS Commerce, qui répondait pas du tout à nos besoins. Et donc on est un week-end, on est parti, on a dit qu'il faut qu'on fasse une solution qui corresponde à nos besoins. Et Telia est née comme ça. On a libéré son code source un an après, en 2006, quand on a estimé qu'il était assez stable pour le mettre à disposition de tout le monde.
Le choix de libérer les sources, de le mettre en logiciel libre, c'était l'intention dès le départ?
Alors dès le départ, on avait comme volonté de placer le code source sous licence GPL. En fait, on a une philosophie du logiciel libre qui est très forte. Et dès le début du projet, il était une évidence pour nous de le mettre sous licence GPL.
Alors ce Tour de France, j'imagine qu'il est là pour vous donner de la visibilité, pour aller à la rencontre des utilisateurs, etc. Quels autres objectifs il a ?
Eh bien, le principal objectif, c'est de promouvoir la solution, donc faire connaître Telia un peu partout dans les villes de France. Donc on a attaqué à Paris il y a 2 semaines, on a fait Clermont-Ferrand, on reste un peu dans le sud de la France en ce moment, avec Toulouse, Montpellier, Lyon, Marseille. Donc comme tu l'as dit, l'autre volonté, c'est de rencontrer la communauté, d'échanger avec eux et de séduire de nouveaux développeurs pour qu'ils participent à cette aventure qu'est Telia.
Alors Telia, vous faites le soft, vous avez aussi, vous l'utilisez pour des clients, pour que les gens se fassent une idée, combien de clients l'utilisent, combien de sites d'e-commerce utilisent Telia?
On a recensé à peu près 7000 boutiques qui utilisent Telia. Donc pour quantifier le nombre d'installations d'un logiciel libre, c'est quelque chose qui est assez dur parce qu'on n'a pas de tracker ou ce genre d'outils à l'intérieur de la solution nous permettant d'avoir des informations. Mais on a pu dénombrer à peu près 7000 boutiques.
De la petite à la plus grosse, c'est quelle fourchette ?
Alors, on a vraiment tout. On va avoir de la petite boutique qui a quelques produits, mais avec un chiffre d'affaires très gros, de plusieurs millions d'euros annuels. Et à l'inverse, on va avoir des boutiques très grosses, avec un catalogue de 15 000 produits, bon, avec un chiffre d'affaires conséquent, mais moins impressionnant qu'une boutique à 30 produits.
Des noms, éventuellement ?
Oui, alors par exemple, la petite boutique qui fait des gros chiffres d'affaires, la Highway. Après, des boutiques intéressantes, qui sont chouettes à voir, il y a Biwak, on va avoir Mellow Yellow.
On dit souvent qu'il n'y a pas assez de filles dans le logiciel libre, hein, 26% dans le logiciel propriétaire, 6% dans le logiciel libre. Là aujourd'hui à la présentation, bah, vous êtes venus trois, deux garçons et une fille. Il y avait trois filles et quatre garçons, donc c'est plutôt encourageant. Là, dans le public pro, il y avait trois filles et quatre garçons.
Oui, c'est un peu la tendance en plus dans toutes les présentations qu'on a fait. Bon, il y a toujours plus d'hommes. Que de femmes, mais les femmes sont quand même présentes et elles participent activement au développement et au débat.
Actuellement, il y a une grosse étape qui se profile, c'est le passage à la version 2, qui va nécessiter pas mal d'heures de petites manipulations pour ceux qui maintiennent ou qui développent. C'est une grosse étape pour Telia.
C'est une étape majeure de Telia puisqu'on part sur une nouvelle solution, un nouveau code source entièrement revu en fait. Donc ça nécessite énormément d'heures en fait, énormément de mois de développement, énormément d'heures en amont d'études de l'existant, des briques techniques qu'on va utiliser. Mais c'est un projet qui est très... très intéressant et qui aboutira à un beau produit d'ici la fin de l'année.
Alors la particularité de Telia par rapport aux autres, si j'ai bien compris, c'est le fait d'être extrêmement modulaire et puis de ne pas imposer, on va dire, un look, une mise en page, forme de bloc, etc. En fait, d'avoir le maximum de liberté pour ceux qui vont intégrer, qui vont développer le site lui-même, pour que finalement les sites Telia ne se ressemblent absolument pas les uns les autres.
Oui, c'est exactement ça. La volonté dès le début, ça a été de proposer aux intégrateurs une souplesse que les autres solutions e-commerce, donc à l'époque OS Commerce, ne permettaient pas. Et aujourd'hui, les autres solutions ne le permettent toujours pas. C'est-à-dire arriver avec une charte graphique, la découper et l'intégrer en deux jours, on va dire, maximum, faire toutes ces étapes-là en deux jours. Et donc les intégrateurs sont vraiment fans de la solution Telia grâce à ça.
Grâce aussi au fait que la documentation est là. Alors souvent on dit dans le logiciel libre, c'est un projet qui n'est pas documenté, c'est un projet qui est mort. Là pour la version 2, vous écrivez la doc au fur et à mesure que vous faites le développement quand vous ne l'écrivez pas avant. Et ça c'est aussi le but, c'est que ça attire le maximum de développeurs justement.
Oui, exactement. Si on propose une solution qui est bien, mais aucunement documentée, le développeur va arriver, trouver aucune documentation et repartir directement parce qu'il ne va pas comprendre. S'il n'a pas la volonté de rentrer dans le code source, il ne va pas comprendre comment fonctionne la solution. Et c'est vrai pour toutes les solutions et pas que e-commerce.
Aujourd'hui, est-ce que vous savez vous situer sur le marché des solutions e-commerce ? Est-ce que vous savez ce qu'il y a une position à laquelle vous êtes ? Est-ce que vous avez une idée de ça ?
Bon, on va dire qu'on fait partie des solutions majeures en France, des solutions les plus utilisées, donc à côté de Magento et PrestaShop. Et notre volonté, c'est de sortir des frontières françaises et d'aller sur le marché européen et le marché international en général.
Voilà, c'est un des axes forts de la version 2 qui va sortir, ce qui a nécessité, j'imagine, pas mal d'ajouts, d'améliorations.
Oui, c'est ça, la volonté de sortir des frontières françaises passe par une internationalisation. Donc la documentation qu'on évoquait tout à l'heure, elle ne sera plus uniquement en français, mais aussi en anglais, et on sera capable de la proposer en espagnol et en italien. Et via la communauté qui va participer, on pourra la proposer encore dans d'autres langues.
Alors justement, en parlant de communauté, Telia, c'est combien de personnes au niveau de l'entreprise? Et puis, c'est une communauté de combien de personnes?
Alors, Telia, ce n'est pas une société. Telia est édité par une société qui s'appelle Open Studio. Et cette société, c'est à peu près 30 collaborateurs, un peu moins, entre 26 et 30 collaborateurs. Et il y a des personnes extérieures à la société Open Studio qui participent activement au développement de Telia.
Ça représente combien de personnes ?
Il y a donc ce qu'on appelle les développeurs du cœur de Telia, c'est environ extérieur à Open Studio, c'est 6-7 personnes.
La particularité de Telia, c'est que tous les modules, contrario de PrestaShop, c'est que tous les modules sont gratuits. Alors du coup, c'est à travers l'intégration et la prestation à ce niveau-là que le modèle économique fonctionne ?
Alors notre modèle économique est basé sur le service et notre expertise, et pas sur le fait de capitaliser sur des plugins qu'on va vendre. Ce n'est pas une volonté de notre part de les proposer gratuitement, on aurait très bien pu les faire payants, mais dès le début, comme on le disait au début, on s'est inscrit dans une démarche de logiciel libre et de rendre accessible au plus grand nombre de personnes la solution, et de rendre les plugins gratuits, en fait, rentre dans cette démarche-là.
Ensuite, vous allez partir à Marseille. Ce Tour de France se termine quand ?
Là, la première partie, elle se termine vendredi à Lyon. Et on va rattaquer au mois de septembre avec le salon e-commerce. Et on va voir, c'est pas décidé encore, mais on nous a demandé si on voulait intervenir à l'AFUP, au forum PHP de l'AFUP, pour parler vraiment techniquement de ce qu'est Telia dans le monde PHP.
Vous serez présent au RMLL à Bruxelles cette année ?
Alors, on ne sera pas présent en Remeleu, donc à Bruxelles. Par contre, on a déjà pris rendez-vous pour les Remeleu de Montpellier, étant donné que nous sommes de Clermont-Ferrand. Montpellier est vraiment très proche. On a déjà participé au Remeleu à Nantes. Ça a vraiment été une bonne expérience. Mais là, Bruxelles, ça fait un peu loin pour nous. Et l'année prochaine, à Montpellier, on pourra vraiment faire une bonne démo de la version 2 de Telia.
Manuel Reynaud, merci. Je rappelle, c'est Telia, thelia.net. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et voilà pour cette divergence numérique qui va se terminer avec un tout petit peu de Dub Majestic, extrait de Pulp Up Brazil, compile sorti en mai 2013 que nous vous conseillons d'aller choper sur Fresh Pulp Records. Et puis côté agenda, avant de se quitter tout à fait, ce jeudi 13 juin de 17 à 18, Atelier Libre Notion PC, Atelier Gimp à la médiathèque de Téran. Samedi 15, toute la journée, fête des ateliers à Mélina Mercoury, rue de la Vieille Poste à Montpellier. Puis le 20 juin, les rendez-vous du Libre, rencontre et débat sur l'actualité du Libre. Ce sera 12 rue Cartelet
à Perpignan,
perpinux.org pour le reste, agendadulibre.org pour l'Hexagone. Pascal, on vous souhaite une bonne semaine.
Soyez libre, à la semaine prochaine.
Et restez-le.